Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les attentoirs.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. C'est posant des questions. Avec nous, ça dirait.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, émission 277, je vous propose la spirale de François.
Ensuite, nous aurons un débat sur la tolérance et par rapport à la foi.
Ensuite, musique Père Margon.
Ensuite, les poèmes, je crois qu'il y aura les poèmes de moi-même, Bruno, et de Pierre, je crois.
Ensuite, texte atelier écriture de Blandine.
De textes qui ont été écrits à Bonafé, à l'hôpital Bonafé de Roubaix.
Chronique santé de Margot.
L'avenir du futur de Brahim, si Brahim daigne venir.
La parenthèse, Roger Lucien.
La rubrique concert de Pierre, c'est ça Pierre, hein?
Oui, c'est bien ça.
Météo de Malikan.
Et la musique, alors là, je ne sais pas, c'est Hakim qui va nous présenter une musique, donc pas maintenant, après.
Merci, cher auditeur, chère auditrice, je vous laisse, à tout à l'heure.
Donc, on va commencer par la spirale de François.
La spirale, la spirale, la spirale. Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes.
Alors aujourd'hui, je vous propose un groupe des années 80, exactement de 1985, le morceau, c'est Gwendal. Thank you.
les entonnoirs.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous. Bah écoute, François, merci pour ta musique. Écoute, elle est inclassable et c'est pour ça que je l'aime bien.
Bah oui, c'est un groupe qui est un peu difficile à classer, effectivement. On se demandait tout à l'heure comment qualifier cette musique. Bah c'est bizarre. C'est un petit peu inclassable.
Oui, donc c'est pas commode à classer parce qu'il n'y a pas de tiroir.
C'est pas commode, non.
C'est pas commode, voilà.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Je sais pas.
Je n'en sais rigoureusement rien. Voilà.
Et on sent, non ? Non, bon. On ne sait pas.
Le disque date de 1985, je crois. Ouais. D'accord. C'est un groupe anglais, américain ?
Non, français.
Français, d'accord. Oui, d'accord. Bon, maintenant, on va passer à un débat. Il s'agit du débat sur la tolérance par rapport à la foi. Ce débat, on va essayer pas trop de se s'éparpiller, on va essayer d'être respecté le débat, le thème.
Parce que ce matin, Brahim avait rapporté un petit livre bleu, le Nouveau Testament et les Psaumes, et moi j'avais dit oh, bah non, pas de ça ici. Et on m'a rétorqué vivement que justement, surtout de ça ici aussi. Donc voilà. On parlait de la foi, de ses croyances, et chacun avait dit un mot.
Et donc on a décidé d'en parler à l'antenne. Voilà.
Voilà. Donc on avait décidé d'en parler à l'antenne. Et c'est justement Ahmed qui m'avait dit oh là là, surtout il faut parler de tout aux entonnoirs, donc c'est important d'en parler.
Surtout la religion juive qui est pas respectée. On voit beaucoup à la télé les actes de violence antisémite,
Là tu mélanges un peu les pinceaux, excuse-moi, je crois que les je suis pas d'accord, je crois que les juifs les gens de religion hébraïque peuvent pratiquer leur religion. Mm-hmm. Et je crois que il y a des actes qui n'ont de racisme, qui ont vraiment quelque chose à voir avec la foi, je ne sais pas, je ne crois pas.
De toute façon, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent fâcher deux personnes ou trois personnes ou un groupe, c'est de parler de politique et de religion.
Ouais.
Donc vous, dès l'instant où vous entamez le sujet de la religion, puisque comme c'est quelque chose de très personnel, de sacré, je ne sais pas si c'est sacré, mais en tout cas c'est personnel. Vous, à vos yeux, Hakim est à ma droite, il me dit c'est sacré. C'est sacré pour Hakim, c'est peut-être moins sacré pour quelqu'un d'autre. Voilà, mais ça c'est votre point de vue. C'est là où justement les points de vue pour 6 milliards d'individus sur Terre seront différents. Mmh. Voilà, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des conflits, même parfois violents, parce que les points de vue deviennent extrémistes ou vont... divergents et vont jusqu'aux armes ou même à tuer l'autre. Donc nous, on n'est pas là ici aux entonnoirs pour s'entretuer. On est là pour essayer de réfléchir sur le degré de tolérance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Alors si effectivement dans sa poche on a le petit livre rouge ou le petit livre bleu ou le petit livre vert ou quelle que soit la couleur, je pense que on a le droit de l'avoir dans sa poche. Dès l'instant où on n'oblige pas l'autre, ou plutôt ne pas l'imposer à l'autre. Voilà.
Je vous rejoins, Ahmed, quand vous dites que les débats sur les religions peuvent conduire à la violence. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Je pense que l'État où nous sommes, la France, est un État laïque. Je pense que beaucoup de pays devraient s'inspirer de ce modèle laïque, parce que pour moi, lorsque l'on pratique la démocratie, je pense que les gouvernements doivent s'orienter vers des États laïques. Je pense que la religion reste du domaine privé et chacun a le droit de la pratiquer. Et je pense que chaque État doit faire un effort de trouver des lieux de culte à tout bon croyant, et Voilà.
Non, moi, je voulais dire que, justement, pour parler d'intolérance par rapport à la foi, il y a eu une manifestation du Front National, il me semble, à Marseille, devant une mosquée. Pourquoi devant une mosquée? Ils l'ont fait exprès. Ils ont voulu manifester leur mécontentement par rapport à ce lieu de culte qui rassemble des croyants. Et je voulais dire aussi, y a peut-être un manque de tolérance, peut-être en France, par rapport à la religion musulmane. Peut-être parce qu'il y a une incompréhension. Il y a des femmes qui voudraient porter le voile et ces femmes ne peuvent pas porter le voile. Et pourquoi on accepte ce modèle en Angleterre et pourquoi pas en France? Voilà, pourquoi cette intolérance vis-à-vis des femmes?
Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'ils n'acceptent pas le voile intégral. Mais le voile tout court, on peut le mettre. Donc c'est autre chose. Mais le voile intégral, on peut pas en France. Mais le voile, tout simplement, on peut.
Moi, pour répondre à Attar, j'ai relevé un mot qu'il a cité lors de son intervention, c'est le mot intolérant. Moi, j'ai toujours pensé que ce mot intolérant, tout comme le mot tolérant, sont des mots très mauvais. Parce que tolérer quelqu'un ne veut pas dire l'accepter. Tolérer quelqu'un, c'est...
C'est tiède.
C'est en fait lui dire oui, tu peux rester là aux alentours, mais pas très proche de moi, pas trop te montrer. Sois discret, c'est une façon de dire à la personne sois discrète, mais ne te montre pas trop. Pour moi, c'est ça la signification du mot tolérant. Et donc les deux vont ensemble, intolérant comme tolérant. Et c'est des mots que je n'aime pas.
Je pense que vous en avez déjà parlé.
Oui, moi je ferai une différence entre deux mots qui ont l'air de se ressembler mais qui ne se ressemblent pas du tout. C'est le mot tolérance et respect. Autant je tolère la connerie, mais je ne la respecte pas.
Oui. Mmh. Rachid qui est derrière le micro, qui veut absolument parler.
Absolument.
On accepte.
C'était pour rejoindre Roger Lucien sur son analyse. C'est d'ailleurs notre débat sur le tableau. Il y a écrit la tolérance par rapport à la foi. Et puis on se retrouve à parler de violence.
Ah ben bien sûr.
D'interdire du voile. C'est pas le sujet exactement qu'on avait abordé.
Évidemment que la tolérance et de la foi va t'amener forcément vers des sujets beaucoup plus larges, c'est d'accepter, de dire est-ce que on peut sortir son petit livre vert, est-ce qu'on peut accepter ou pas accepter, est-ce qu'on peut tolérer ou pas tolérer suivant les mots qu'on utilise. Et après, on peut aller jusqu'à même la violence, puisque ça produit de la violence. La violence, elle est pas physique, elle peut être le fait de pas l'accepter. Ça, c'est violent.
Mais Ahmed, je pense que les religions, comme tous les domaines, sont utilisées pour créer des violences. Et les gens qui créent ces violences se servent un petit peu comme on peut, servir de la liberté pour faire la guerre.
Non. Mais là, c'est justement extrapoler le sujet. Moi, je pense qu'on parle effectivement de la foi. La foi, c'est pas forcément effectivement la religion.
Oui.
Je pense qu'on est d'accord. Hein.
Oui.
Et effectivement, on peut utiliser n'importe quelle arme pour pour avoir notamment un support pour pouvoir tuer l'autre, tuer son prochain, ou pour pouvoir l'anéantir. Ça peut être la religion, ça peut être la politique, ça peut être l'argent, ça peut être, oui. Ça peut être n'importe quoi.
Oui, par rapport à ça, je voudrais dire deux choses. C'est qu'on est par rapport à la foi, un musulman de Marseille avait dit qu'on était dans une démocratie à géométrie variable. Dans le sens, on accepte que Charlie Hebdo fasse des caricatures. Même si je suis pas d'accord, on est en liberté, ils ont le droit de caricaturer, mais on a le droit aussi de manifester contre pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et là, ça n'a pas été accepté. C'est pas normal. Donc il y a une stigmatisation de l'islam, je trouve, quoi. Surtout que
différence entre manifester, tout casser.
Hein. Non, ben justement, ils voulaient pas tout casser, Blandine, justement.
On se calme.
Ça a été fait pour toi.
Non, on se calme.
Non. Je sais que là, c'est. Allez, chacun son tour.
Oui. Et deuxièmement, il y avait 15 personnes qui manifestaient à Paris, ou comme 10 femmes.
me voilait à Lille, il y avait 150 flics. Faut arrêter.
Bien sûr, c'est pas la majorité, ça reste extrêmement minoritaire, mais on montre des images, ce qui fait que là, c'est stigmatisant. On se dit, tiens, c'est, il y a beaucoup d'islamistes, il y a beaucoup, beaucoup de musulmans, alors que c'est une poignée. Pourquoi on parle pas de la religion bouddhiste? Pourquoi on parle pas de la religion chrétienne, la religion juive? Il y a plein d'autres religions. Mais là, effectivement, on focalise sur un petit nombre. Voilà, bon, c'est rien. Faut pas se laisser non plus endormir.
Blandine?
Oui, moi je voulais vous demander, en fait, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi à chaque fois qu'on parle de religion, quelle qu'elle soit, la religion c'est une liberté, hein, quelle qu'elle soit, quelle que soit la religion, j'insiste bien là-dessus, et pourquoi ça dégénère toujours de la violence? Et ça je ne comprends pas, parce que toutes les religions vont quasiment dans le même sens.
Oui, mais comme disait Rachid, c'est une arme.
Pourquoi c'est devenu un moyen aujourd'hui.
Non, mais c'est un moyen justement d'utiliser, comme en politique, hein, tu utilises la religion pour pouvoir mettre de côté une catégorie d'individus. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Hein.
La religion, c'est stigmatisant. Ouais.
C'est stigmatisant, comme d'autres.
Ouais.
Ne pas avoir, par exemple, une personne atteinte de troubles psychiques habiter près de chez soi, on peut l'accepter, comme vous disiez si bien tout à l'heure. On peut la tolérer.
Bien sûr.
Mais de là à ce qu'elle vienne habiter à côté de chez soi, et c'est vrai pour l'étranger, entre guillemets, hein. L'étranger avec un grand E. Ça peut c'est pas à l'étranger dans le sens propre du terme, mais de manière globale. On est toujours d'accord pour le tolérer, mais de l'accepter. Mais vous avez raison, effectivement, les termes sont importants.
J'en veux bien, mais pas chez moi.
Voilà, c'est exactement ça.
Yeah. Je voudrais dire par rapport à la violence. Moi, il m'est arrivé d'être dans mes propos, d'être violent il n'y a pas très longtemps. Et j'assume, parce que des moments, je suis violent sur papier. C'est un moyen d'exorciser le mal, parce que je me sens agressé, je me sens exclu, et je me défends comme je peux. Et si j'en emploie des moyens littéraires violents, j'assume et j'ai raison. Voilà. Là, des moments, la violence, quand il n'y a plus que ça, quand on a tout essayé, qu'est-ce qui reste à l'individu? Se soumettre, mourir?
Ouais, moi, je voulais dire que, pour revenir au sujet, la tolérance par rapport à la foi, eh ben, ça doit générer de l'amour, l'amour universel. Ça doit générer la liberté, la démocratie et le respect des individus et bien d'autres valeurs.
Mais alors, tard, je vous rejoins, mais il faut des actes. Parce que les mots sont beaux. Mmh. Il faut essayer d'être dans l'action.
Bah oui, la foi,
mais
c'est un
en
engagement.
C'est une pensée, la foi.
Il y a plein d'exemples.
Bien sûr.
Ça vient du cœur.
Bien sûr, parce qu'il y a des bons penseurs. Voilà. Mais moi, je préfère que ce soit quand même des choses concrètes et dans l'action.
Il y a plein d'actes, il y a plein d'associations musulmanes qui distribuent des repas aux SDF.
Il y a que ça.
Il y a le Secours catholique.
J'en ai jamais douté.
Il y a le Secours catholique, il y en a plein. On met en avant le barbu ou l'intolérant chrétien qui s'oppose. Moi, par rapport à la laïcité, ce qui est plus dans le débat, ce que je pense, c'est que la France n'a jamais été réellement complètement laïque. Elle a trouvé un équilibre entre religion et laïcité. Et je pense que les laïcs sont devenus un petit peu limite extrémistes. C'est-à-dire qu'on peut plus parler de religion, alors que les religieux existent depuis des centaines et des centaines d'années. Si vous allez au milieu de l'Amazonie, vous allez avoir l'indigène, ce qui n'est pas péjoratif, avec ses petites statuettes, avec sa religion. Alors de quel droit ces pseudo-intellectuels de gauche, de droite, hein, parce qu'il y en a de partout, d'extrême droite, qui récupèrent facilement les choses, pourrait dire que on peut pas avoir le petit livre, comme tu disais, le petit livre vert, le petit livre rouge, le petit. Donc, il faut quand même laisser une place. D'ailleurs, le vendredi, je peux rappeler que le vendredi, dans les cantines, on sert du poisson. On est laïque. Si on va au bout de tout ce qu'on refuse aux autres religions en disant ça, c'est pas vrai. En France, la religion fait partie, à Noël on est en vacances et on est bien content de fêter Noël, même si je m'appelle Rachid. Donc en France, il y a une place pour la religion chrétienne, et comme maintenant il y a des Français qui sont d'autres religions, bouddhistes, musulmans ou laïcs, Parce que moi, j'ai un peu une conception comme quoi la laïcité est à la limite d'une religion. Hein. À force de s'opposer, elle a un peu pris les couleurs avec des dogmes et tout ça. Hein.
Les frontières sont toujours très sensibles.
Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi à une société complètement laïque. Est-ce possible alors que les religions font partie de l'humain?
Je pense qu'il
faut y réfléchir.
Je pense qu'on devrait s'appuyer. On devrait prendre l'exemple sur les Américains, parce que la Bible, c'est la constitution américaine. Alors pourquoi pas mettre toutes les religions françaises dans la constitution française et faire une nouvelle constitution avec juste annexer entre guillemets ça à la constitution, mais enfin. Est-ce que c'est faisable, c'est pas Bruno?
Oui, moi je veux dire le principe, le problème de la laïcité en France, c'est où est la limite entre le domaine privé et le domaine public? La question, c'est pas toujours évident. Et deuxièmement, dire qu'on est tous religieux, je ne suis pas du tout religieux. Moi, je revendique ni Dieu ni maître et je m'en fous de la religion et elle me fait chier. Voilà.
Et moi, pour répondre à Florent, je dirais que c'est pas possible. Je ne pense pas que l'on puisse inscrire les religions dans la Constitution parce que. Notre démocratie, notre société contemporaine est née de la Révolution française à une heure où finalement on a remis en question les religions et on les a passées à l'éclairage justement de ces lumières philosophiques qui ont mis en avant et produit la laïcité telle qu'elle est actuellement. Donc
le clergé,
il est passé à côté, il est passé à la trappe d'une certaine façon. Parce qu'on estimait qu'il était nuisible au peuple.
Roger Lucien. Et Hakim après.
Non, moi je voulais juste dire que je n'ai rien contre la pratique des religions, mais il faut faire attention à une chose, c'est le fanatisme. Parce que le fanatisme peut conduire à l'extrémisme qui lui-même conduit à la violence.
Oui, moi je voulais vous dire qu'il y a une chose que je comprends pas à la télé. Voilà, en Amérique, ils ont traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Rasoul. Et il y a un musulman d'une mosquée à Paris, il s'est déguisé. Il a dit, si vous coupez sa tête, je vous donne 100 000 euros. Et moi je comprends pas, normalement, un musulman, il veut tuer personne. Ça, je comprends pas.
Bon.
Allez comprendre quoi.
Moi, pour terminer, je voudrais dire que la religion, ça doit rester de l'ordre du privé. Que c'est un engagement personnel, la foi ou pas la foi, ou la foi en quelque chose ou en autre chose, que personnellement j'ai vécu longtemps ma foi de façon engagée et humaniste, et que je souhaite que tout le monde la vive du mieux possible, pour lui-même avant tout et vers les autres.
Bon, et 2012, ce ne sera pas la fin du monde.
Et 2012, ce ne sera pas la fin du monde, non.
Non, 2012, c'est fantastique.
En couple.
Bon, voilà. Donc, on va passer à l'autre sujet maintenant, la musique de Margot.
Allez, viens. Bienvenue dans le coffre à vinyle.
Donc voilà, nous allons écouter aujourd'hui un titre de 1984. C'était le générique de l'émission du Top 50. Et c'est chanté par Paul Young. Et c'est Dream.
We have to wait tonight again. la parole déliée.
Quelques mots sur papier blanc.
Le poème date du vendredi 4 décembre 2009, donc il est plutôt tout très récent. Il s'appelle « Beauté spontanée ». Dans le flamboiement vivace de ma vie, alors que je goûtais décontracté à des plaisirs simples en juste société, sans cesse en quête d'allégories concrètes, une beauté spontanée jaillit et avec les manières m'aborda et me confia dans un profond désarroi. Je suis Jessie, une jeune femme resplendissante, mais dont on a volé les baisers. Je suis un désir inassouvi, une puissance fine réprimée, qui a hâte de se venger follement et amoureusement. Je suis Jessie et je veux évoquer, avec un chantre de la féminité, l'art de conquérir un monde encore enclin à des lois immondes. Et communiant en un instant avec elle, dans le même rêve souterrain et illicite, une beauté spontanée, toujours celle de Jessie, se devait de me séduire, décidée à s'ouvrir en poésie. Et il ne me restait plus qu'à l'écrire et à le retrouver dans l'espace prochain de sa victoire annoncée.
Bravo Bruno.
Bravo.
Et maintenant, texte atelier écriture de Blondaine.
Attends, va pas trop vite, j'ai un texte aussi à lire. Je veux pas ?
Vas-y.
Merci. Donc, ça s'appelle Oublier, ça a été écrit assez récemment.
Vas-y Pierre.
Alors que je m'avançais vers les profondeurs noirâtres de ma mémoire, je n'avais qu'une idée en tête, supposer, chercher, trouver la clé de ma rassurance. Celle qui me permettrait probablement de passer une nouvelle étape, avec l'appui du verbe comme soutien à ma dynamique mnémonique, car je ne saurais pas rester une fois de plus dans le mutisme de la muette, vaine énergie qui ne me mènerait à rien, si ce n'est le refoulement. Parfois, le regard se fixe sur un écran afin de se protéger de ce qu'il y a derrière. Donc, avec l'instinct comme seul guide, je me remémore mes souvenirs les plus anciens, ceux qui, de la caste des intouchables, seraient les plus au-dessus de tout soupçon. Les corbeaux de mon psychisme prophétique, tels les sorcières du prologue à Macbeth, volaient en croissant un air à la vitesse de Dieu. Ces empereurs noirs faisaient crisser leurs griffes sur une craie, la peur du présage revenait en bloc. Mais ces messies de l'aigle, loin de m'être néfastes, ne faisaient que m'apporter un diamant bleu, l'artefact de la recherche, la première quête. Le rêve des éclairs, celui où ils dansaient au sommet de l'immeuble dans lequel j'habitais. 3-4 divines pécheresses jaunes en forme de frites végétalines se confondaient avec l'électrostatisme de l'air ambiant. L'orage grondait, le vent soufflait très fort. Et puis le lest de ma montgolfière, si solidement attaché que je ne pouvais pas le laisser tomber afin de m'élever plus haut dans les nuages. Un sac de peur, boulet invisible, accroché au pied de ma personne.
Et maintenant, un texte atelier écriture de Blondaine.
Bravo Pierre.
Merci.
Oui, on remercie Pierre au passage et Bruno pour leur texte magnifique. Alors voilà, donc c'est à moi. C'est un texte qui a été écrit en avril 2011 par les patients de l'atelier L'Encrier. C'est un texte pas collectif, non. Donc je vais citer les personnes qui ont écrit ce texte. Jean-Yves, on se demande si c'est Monsieur Alexandre. Faïza, Christian, Christelle, Catherine et Marc. Écrire. Écrire pour fixer la mémoire. Écrire pour écrire mieux. Écrire pour exploiter mes dons de création, de créativité. Écrire pour dire ce qu'on pense au fond de nous-mêmes. Écrire pour le plaisir. Écrire pour savoir de quoi on se mêle. Écrire pour dire ce qu'on veut. Écrire pour se rappeler des choses. Écrire pour revivre le passé. Écrire pour laisser des traces. Écrire pour une chanson. On écrit parce qu'on est humain. On n'est pas des animaux. Écrire, c'est une manière thérapeutique de fixer son esprit. Ce n'est pas un défoulement de l'esprit. Écrire pour distinguer l'un de l'autre. Écrire à une amie ou un ami ou un amour. Écrire de but en blanc. On marque.
Merci Blandine.
Merci Blandine.
Et maintenant, la chronique de santé de Margot.
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Bonjour chers auditeurs, chers auditrices. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la migraine. Vous savez que la migraine est un handicap pour tout le monde. Ça peut faire souffrir, une migraine, et à n'importe quel âge. La pathologie concerne 10% de la population, ainsi que les jeunes peuvent en être infectés. Donc cependant, la plupart des gens peuvent guérir de la migraine, mais par la suite... ça peut revenir. Donc, j'ai deux questions à poser aux entonnoirs. Avez-vous connu déjà la migraine et pensez-vous que c'est la maladie du siècle? Je vous écoute.
La maladie du siècle, je ne sais pas. Par contre, oui, j'ai connu, je sais ce que c'est que d'avoir une migraine. Et croyez-moi, c'est horrible.
Alors, c'est quoi la migraine?
La migraine, c'est d'abord un mal de tête, mais alors à puissance 10. On ne peut plus ouvrir les yeux, il faut être dans le noir et on ne supporte aucun mouvement autour de soi. Le moindre mouvement fait mal.
Et est-ce que ça dure dans le temps?
Ça peut durer un jour, deux jours, trois jours, voire plus.
Et ça peut durer même une vie ou pas?
Non. Souvent, ce sont des crises, des poussées. Hein? Ça agit par crise.
Et c'est lié à des facteurs extérieurs ou ça vient comme ça, ça apparaît, ou c'est des situations qui créent?
Écoute, non, ça apparaît par crise. Enfin, non, il n'y a pas forcément un élément déclenchant. Moi, je me souviens, tout allait bien.
Par exemple,
une heure après, j'avais une crise de migraine.
Par exemple, là, Brahim vient d'arriver. Est-ce que tu peux avoir une migraine?
Ben, peut-être de contrariété, parce que Brahim est en retard et qu'il a une chronique dans quelques temps.
Ben voilà.
Ouais. Donc, oui, ça pourrait me déclencher une migraine. Merci, bon. Brahim. Hein, franchement.
Brahim agit comme un délinquant, migraine de voyou.
Oui. Mais Roger Lucien. Oui.
Je voulais savoir, Blandine, si la migraine agit sur une partie particulière du cerveau.
Alors, on peut avoir une migraine, par exemple, ophtalmique, aux yeux. Mmh. Tu vois vraiment. Donc, c'est tout le haut de la tête, hein, avec les yeux y compris. Mais oui, on peut avoir de différentes parties, effectivement, du cerveau. Ça fait mal, mais ça fait très mal. Où importe la migraine agit, c'est très très douloureux, vraiment.
Mais aussi, on n'en meurt pas de la migraine.
Non,
la migraine,
on en souffre.
À 80 ans, 90 ans, souvent.
Non.
Souvent, ouais, mais c'est, on peut pas en mourir, quel que soit l'âge.
Non, c'est très handicapant, mais on n'en meurt pas, non.
Ça arrive souvent.
Puis maintenant, ils ont quand même fait pas mal de progrès dans les traitements. Hein. Il y a des traitements de fond à prendre.
Voilà, moi j'ai la chance de ne jamais avoir eu de migraine, vraiment. Mais j'ai un petit frère qui souffre de migraine. Et il en souffre, c'est tellement handicapant pour lui que ça fait partie de son contrat de travail. S'il a une crise de migraine, il donne des nouvelles au bout de 3 jours à son employeur et pas avant, quoi.
Absolument.
Et ça fait partie de son contrat de travail.
C'est très, très handicapant.
Mais il est obligé d'aller, quand il a des crises de migraine, directement à l'hôpital et on le traite par piqûre, voilà. Je sais plus.
Mais on connaît pas vraiment les raisons.
Mais non,
les causes de la migraine,
non.
On les connaît pas.
Non, lui, ça a
commencé. C'est neurologique, mais après.
Lui, ça a commencé durant son service militaire et il avait tellement mal à la tête qu'il tombait dans le coma directement.
Oui, avec vomissement. Hein. Moi, j'avais tout. Hein. Vomissement, j'avais tout. Hein. On peut vomir.
Et quand
il s'est retrouvé plusieurs fois
à Scrive
pendant
pas,
son
quoi,
service militaire dans le coma.
Et quand ça se guérit au bout de combien de temps?
Écoute, j'ai des migraines qui sont passées en 24 heures, on ne sait pas pourquoi. Après, ça a duré 3 jours, je ne savais pas pourquoi. Voilà, enfin c'est.
Rachid, parle-nous de ta migraine.
Moi, j'ai une question. Pourquoi parlait-on de migraine par rapport aux femmes, surtout à l'époque, dans les livres à l'époque du romantisme? On disait que c'est les femmes qui avaient les migraines et pas les hommes. Enfin,
je pense. Hein. Je pense
on a un avis. C'est le grand H.
Il me semble qu'elles utilisaient cette excuse pour échapper à...
Oui,
d'accord.
Bien sûr.
Je pense.
Rachid.
Sinon, par rapport aux migraines, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est très complexe, en fait. Hein. C'est quand même une spécialité. En gros, pour simplifier, si vous avez des maux de tête et que vous finissez aux urgences pour un mal de tête, c'est que c'est peut-être un peu plus qu'un maux de tête. Peut-être que vous faites des migraines, il faut aller voir quelqu'un d'un peu plus spécialisé.
Un mal de tête et une migraine,
parce qu'il y a vraiment plein, dans les migraines en plus, il y a plein de sortes. J'ai même eu moi une patiente qui avait une migraine et qui avait des aurores. Et on a cru qu'elle faisait une psychose parce qu'elle racontait qu'elle avait comme des anneaux de lumière autour d'elle. Et en fait, ça venait de sa migraine. Donc il faut vraiment aller voir un spécialiste quand on a des migraines.
Alors, juste pour conclure, est-ce que je peux ?
Oui, c'est intéressant.
Juste,
ça.
Vraiment. C'est que moi, j'ai eu des migraines petites, hein, jusqu'à l'âge d'à peu près 35 ans. Et je me souviens très bien de ma dernière crise de migraine. Alors, pourquoi ça s'est arrêté longtemps ? Je me suis dit, mais pourquoi je ne fais plus de crise de migraine ? Et en fait, un jour, une migraine, mais alors, voilà, comme je savais très bien les faire, et j'en avais tellement marre de souffrir, j'ai pris la pommette de douche froide et je l'ai mise sur ma tête. Hein, j'ai penché ma tête. Et ben, ça peut prêter à rire, hein, mais je n'ai jamais, de ce jour-là, eu de migraine. Alors, si je peux lancer un traitement, une douchette froide sur la tête.
Ouais, c'est, ça coûte
Tenter,
pas très
ça
cher.
Coûte rien.
Et ça coûte pas
lido.
Très cher. Ça coûte pas
un
très cher pour la sécurité sociale. Hein, une douche froide.
Bientôt, on va. Hein,
c'est, et en même temps, je pense que c'est intéressant comme sujet, puisqu'il y a le lien, Rachid il en parlait, entre le santé mentale et santé du corps. Donc il faut toujours faire attention, une distinction entre les deux. Parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément une pathologie psychiatrique derrière, quelquefois, un discours incohérent. Ou... Non mais... Faut être vigilant.
Non, puis la douche froide, ça faisait partie des traitements psychiatriques avant.
Absolument.
Bah, pas seulement avant, en fait. Il y a un psy de Lille qui soignait des autistes avec des couvertures humides. Voilà.
Ah, mais c'est le packing. Ouais, c'est différent encore, ça. Pas des douches froides. Hein.
Excusez-moi.
Non, c'est une technique, le packing.
C'est
différent encore.
On va passer à la suite. On va passer à la suite maintenant. Je crois que c'est la chronique de Brahim.
L'avenir du futur. Du futur. Du futur et du futur. Passé, passé, futur, futur. L'avenir du futur. Chers auditeurs, chers auditrices, maintenant je vais parler de l'avenir du futur. Ils ont trouvé une voiture qui... Il roule tout seul avec une télécommande. Quand tu appuies sur la télécommande, elle parle. C'est comme la voiture de K2000. Tu connais K2000, la voiture qui parle dans King. C'est un détective, il fait des enquêtes, il change des missions. Il fait des cascades. Il met son copain David Passalop, c'est lui qui a créé avec King, la voiture qui parle. Mais ils ont créé même des hommes robots et des hommes femmes. Ça se peut, mais aussi ils ont trouvé un antidote pour être costaud et en bonne santé. Comme les médicaments, tu parles manger, ben moi je te dis les médicaments, ça fait fatiguer et je prends tous les jours mes médicaments. Et après pour être costaud, faut manger des épinards pour être costaud, comme Popeye. Parce que Popeye, quand il était petit, il mangeait pas des épinards. Et son père, il a forcé à manger des épinards. Après il est marié avec Olive. Après il y a un petit enfant. Après, ils ont trouvé quoi? Des chercheurs sur des cailloux de l'espace ou à la planète Mercure, ils ont trouvé des objets sans identifier. Est-ce que ça se peut dans l'espace? Ahmed, qu'est-ce que t'en penses?
J'en pense rien.
Sur Mercure, tu...
Et toi, Margot, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, Gilbert, qu'est-ce que t'en penses? Quand t'as vu un ovni et t'intéresses, ça se peut ou ça se peut pas?
Je pense que Fred a une pensée là. Fred, t'avais pas une pensée
ça n'avait rien à voir, c'était par rapport aux migraines.
Ben oui, justement, justement.
Ils ont trouvé des antidotes pour être costaud, en forme et en bonne santé, pour faire du sport, pour se lâcher, pour faire du jogging, pour courir tout le tour de Barbavieux et après ça se lâche. Voilà.
Faire du sport pour la migraine.
Voilà, faire du sport.
D'accord, et Fred,
au soir, tu manges ton dos et ça fait du bien.
D'accord.
Fred ?
Alors je ne sais pas, parce qu'après l'heure, c'est plus l'heure, mais moi, je voulais juste te dire à propos des
bisphénols,
j'ai lu justement
un
article il y a pas longtemps dans une revue qui traitait d'une étude sur des migraineux chroniques et qui cherchait à savoir si le fait d'avoir eu toute sa vie des migraines ou pendant des années des migraines, avec un suivi vraiment en tant que migraineux, avec des neurologues, etc., avait une incidence sur les capacités du cerveau, notamment les capacités de mémoire, de traitement de l'information en général, voilà ce qu'on appelle le cognitivisme. Et bon, si ça peut rassurer les gens qui nous écoutent et qui sont migraineux ou qui connaissent des gens migraineux autour de nous, l'étude a démontré qu'il n'y a aucune incidence sur les capacités cérébrales pour les gens qui souffrent de ce mal-là. Voilà.
Voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Je crois que la suite, c'est la parenthèse de Roger Lucien.
La parenthèse du jour avec Roger Lucien.
Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Nous sommes au XXIe siècle, mais certains sujets archaïques provoquent encore beaucoup de polémiques. C'est pourquoi je vais vous lire un extrait de la Bible, non pas pour choquer les uns ni les autres, mais pour susciter un débat constructif. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » En fait, Canaan, c'est la descendance de Cham. Et d'après la Bible, c'est l'ancêtre des Noirs. Donc, pour moi, c'est un extrait. Je vais parler au conditionnel. Mais selon les informations que j'ai pu recueillir, c'est un extrait qui aurait été rajouté à la Bible après sa rédaction. Et je vais rajouter que aucun homme, je dis bien aucun homme, sous prétexte de la couleur de sa peau, qu'il aurait une peau trop foncée ou trop claire, ne doit être mis en servitude. Mis en servitude en raison de ses pratiques religieuses, qui serait une personne qui serait qui résiderait dans un état où sa religion serait minoritaire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions par rapport à cet extrait de la Bible.
Pour moi, c'est un peu le justificatif biblique de l'esclavage. Ça, c'est pour se donner bonne conscience. Ouais, mais c'est écrit dans la Bible que les Noirs sont esclaves. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben moi, je pense comme toi. Je pense comme toi, comme je l'ai dit. D'après les informations, d'après les réactions des intellectuels que j'ai pu recueillir, c'est un extrait qui aurait été rajouté à la Bible. C'est un extrait qui à l'origine n'existait pas dans la Bible.
Il aurait été rajouté quand aussi ? C'est le problème, quoi.
Je ne saurais pas te dire, mais c'est un extrait qui a été rajouté parce que moi, je pense que, enfin, même pas que je pense. Quelle que soit notre couleur de peau, nous sommes tous issus du même berceau africain. Que l'on soit, peu importe la couleur, peu importe la religion, d'après les archéologues, d'après l'archéologie, nous sommes tous issus du même berceau africain. Donc, on ne vienne pas me dire que certaines personnes qui, au cours du temps, ont subi des transformations au niveau de l'épiderme, enfin de l'apparence de la peau, ne seraient plus maudits, et ceux qui sont restés sous la même apparence, sous l'effet des facteurs physiques, continuent d'être maudits. Alors que nous sommes issus du même berceau. Je trouve quelque part là se foutre de la gueule du monde.
Oui, non, mais
pardonnez l'expression.
Tu veux dire qu'en fait on est tous congénères entre nous quoi en fait. Que ça notre race c'est un peu on est congénères en fait.
Mais Frédéric.
Non.
Oui, Roger Lucien, moi ce qui m'intéresse vraiment justement c'est voilà, tu dis c'est un passage qui aurait été rajouté après. Là, moi, c'est l'aspect scientifique qui m'intéresse. C'est des recherches, ce qu'on appelle l'exégèse des textes, d'où ça vient, leur sens profond, etc. etc. Et ça m'intéresse. Il faut un peu étayer. Sinon, il y a un sentiment de complot. Oui, certes, ça a des incidences éventuellement pour justifier l'esclavage, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qui a dit ça, quand, sur la base de quelle recherche. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'à partir de ce que tu dis, on pourrait supposer que lorsque, dans la Genèse, alors je pense que c'est dans la Genèse, l'histoire du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance, etc., lorsque le serpent s'approche d'Ève et lui dit, mais voilà, si, il faut goûter absolument du fruit de la connaissance, parce que comme ça, tu sauras plein de choses que Dieu ne veut pas que tu saches. Et elle arrive à convaincre l'homme d'y goûter, et à partir de là, Dieu, très en colère, lui dit, tu renfronteras dans la douleur, et dit à l'homme, je te chasse du jardin, enfin, je vous chasse du jardin d'Éden, et l'homme gagnera sa nourriture à la sueur de son front, etc. Et la femme, voilà, sanction, elle enfantera dans la douleur, et enfin, voilà, on se méfiera, tous les péchés viendront d'elle, finalement. Alors, on peut dire aussi que ce passage-là a peut-être été rajouté après. Voilà, ce sont des hypothèses intéressantes, mais il faut quand même les étayer avec des recherches.
En fait, ce que tu viens de dire, ce passage que tu viens de dire, là, je ne l'ai pas étudié, je n'ai jamais discuté avec des intellectuels. Je ne me suis pas sur ce passage. Je ne me suis pas documenté sur ce passage, mais
c'est la Genèse.
Mais sur le passage que je viens de lire, je me suis pas mal documenté sur ce passage. J'en ai discuté avec des intellectuels. J'ai écouté l'avis des intellectuels et scientifiquement parlant, moi je sais que nous sommes issus du même berceau, quelle que soit notre couleur de peau.
Ça, c'est votre conviction à vous.
Mais c'est pas la conviction
de la Bible.
Mais scientifiquement parlant. Oui.
Mais attendez, il y a deux apports. Il y a l'apport scientifique, après il y a l'apport religieux.
Oui.
Vous êtes dans votre rapport qui vous arrange. Et qui vous.
Non, pas qui m'arrange.
Mais le religieux dira le contraire. Vous êtes d'accord?
Il y a religion,
attends,
religion.
Attends,
oui. Non, mais Roger Lucien, vous êtes d'accord?
Oui, oui.
Bon,
par rapport à ce qui est marqué.
Donc on est d'accord. Donc le religieux dira, voilà, c'est Dieu qui a. Vous, le scientifique, il faut des bases rationnelles, sûres, concrètes. Dira non, voilà, le berceau, c'est de l'humanité, c'est l'Afrique, etc. Voilà.
Bon,
donc les points de vue vont être encore divergents. Ils vont être divergents.
En fait, où voulez-vous en venir ?
Je veux dire que, comme disait Fred, il y aura des points de vue qui vont forcément se contredire.
Mais vous pensez quoi par rapport à ce que j'ai lu ?
Moi, je ne parlais pas exactement de ce sujet-là. Je parlais pas de. Personnellement, oui, je crois qu'effectivement, le berceau de la civilisation, c'est.
J'ai pas parlé civilisation.
Mais voilà, c'est pas le sujet de Roger Lucien aujourd'hui. Moi, ce que j'ai relevé, en tout cas, c'est qu'il affirme que, selon certains scientifiques, etc., ce passage-là, qui a des conséquences terribles sur l'histoire des civilisations, voilà, qui justifierait par Dieu que les Noirs, les Africains, soit
les esclaves.
Voilà.
Les esclaves.
Parce que cela, voilà, c'est une sanction de Dieu. Mais moi, ce qui m'intéresse, quand je parlais de science, c'est quel est le scientifique et sur la base de quelle recherche aurait démontré que ça a été rajouté, à quel moment, et c'était l'intérêt de qui, quand, comment. C'est ça qui est intéressant pour moi.
Bon, moi, pour conclure sur ce débat, je vais dire ceci. Pas mal d'États puissants, démocratiques, sont incapables de condamner cette pratique inique qu'est l'esclavage, qui existe encore aujourd'hui. Et ces États même, qui autrefois ont combattu l'apartheid avec détermination en son temps, sans, avec beaucoup de détermination, et qui aujourd'hui sont incapables de condamner cette pratique inique qui existe encore aujourd'hui.
Moi, je voudrais parler aussi. Je crois qu'il y a, en ce moment aussi, on parle de l'esclavage.
Bruno.
On n'a pas le temps. Donc,
ça sera pour le prochain débat.
Oui.
Hein, parce que c'est un débat intéressant.
Oui.
Ça peut durer encore peut-être 20 minutes, mais bon, après, on pourra en discuter avec les auditeurs s'ils veulent venir aux entonnoirs, monsieur les auditeurs et mesdames.
Et maintenant, le retour de Pierre.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, donc c'est Pierre qui suis de retour après ces longs mois d'absence. Je vais vous présenter un concert qui va avoir lieu à la Condition publique le samedi 3 novembre à 20h. Et c'est grand, c'est Godspeed You Black Emperor. Donc ce sont des orfèvres de la protestante instrumentale qui façonnent une musique sinueuse, poreuse, filtrante, qui grandit en nous comme une pensée puissante. Donc les créations de Godspeed You Black Emperor ne sont pas des morceaux, mais des totalités de 20-30 minutes compactes, pesantes, immatérielles, composées avec 3 guitares, 2 basses, 2 batteries, un violon et un violoncelle, violemment anticapitalistes. Leur œuvre est documentée avec des fragments de reportages et de captations bruitistes. Dans l'esprit de leur nom inspiré par un documentaire japonais en noir et blanc sur les bandes de motards errantes dans les années 70, les Black Emperor, le collectif canadien créé en 94 par Ephraim Menyuk et Mauro Pezzente est rare. Donc ne le manquez sous aucun prétexte, ce sera samedi 3 novembre à 20h à la condition publique. Donc les places sont à 24 et 21 euros. 21 euros, c'est pour les abonnés du Grand Mix. Et elles sont en vente à la billetterie de la condition publique, évidemment, au Grand Mix ou sur le site du Grand Mix et à la FNAC.
Qu'est-ce voilà. qui fait que ça vous intéresse, ce groupe ?
Moi, j'aime bien parce que je trouve leur musique assez sympa. En fait, c'est super planant, c'est bien enragé au niveau des guitares, donc c'est assez rythmé. Et puis voilà, comme on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de voix, donc c'est assez reposant finalement.
C'est du style de Hair, non ?
Non, c'est assez différent. Hair, c'est beau, un peu plus, ouais, c'est plus pop quand même, je trouve. Hein, voilà. Mais c'est vrai que Hair a sorti un album récemment qui s'appelle Le Voyage de la Lune, hein, c'est ça, je crois. Et voilà, ça peut rappeler effectivement un peu ça parfois. Mais bon, c'est pas le même. Chose du tout.
C'est un nom anglais, mais est-ce que c'est bien des Français ou des francophones, des Français,
non, ce sont des Canadiens, en fait. Ils sont pas francophones, je pense, du tout. Et voilà. Et d'ailleurs, sur leur dernier album, il y a des chansons qui sont assez engagées au niveau du... Enfin, qui rendent hommage au printemps érable. Voilà.
Printemps érable, rappelez un peu ce que c'est.
Bah, en fait, c'était... c'était alors je sais plus si c'est au début de l'année ou c'est ça, hein, c'est au début de cette année.
Au printemps,
voilà, oui, évidemment. Merci Bruno. Au printemps donc 2012, il y a des étudiants qui illégalement, parce qu'au Canada on n'a pas le droit de manifester dans les rues, et donc qui sont descendus dans la rue pour protester contre les hausses énormes, enfin les présupposées hausses, en fait des coûts des études universitaires. Et voilà, donc ça a mis des tas d'étudiants dans la rue. Donc depuis, le gouvernement s'est cassé, enfin il n'a pas été réélu, je crois. Et puis voilà, ils ont eu gain de cause finalement. Mais bon, voilà. Et enfin voilà, moi je trouve ça vraiment très bien, Godspeed You Black Emperor.
Alors Pierre, si tu pouvais juste te rappeler le nom bien clairement du groupe et le lieu où ça se passe, puisqu'apparemment donc, c'est assez exceptionnel.
Oui, alors c'est Godspeed You Black Emperor et ce sera à la condition publique le samedi 3 novembre à 20h.
Maintenant, on va passer à la météo. Qui dit la météo, je crois que c'est Malika.
Voici la météo. Ouais. Vendredi 26, le temps nuageux et soleil. Température 9 degrés. Samedi 27 novembre, temps nuageux, soleil, température 8 degrés. Dimanche 28 novembre, temps nuageux, soleil et température 9 degrés.
Merci Malika.
Et pour terminer... Musique de Hakim m'a cité Matrix.
Oui, voilà, ben, en fait, je vais interpréter une chanson que je pense que tout le monde connaît, puisqu'elle est datée, elle est vieille. Et c'est toujours un plaisir pour moi de chanter, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la porte. Et je souhaite la trouver un jour. Bon, je me permets de vous la chanter. Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott, faisant en sorte que les aisés nous lâchent les bottes, traînant plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Prendre le mal par le mal n'est pas bon, en effet, mais la rage et la frustration empêchent à la réflexion. Est-ce Dieu ou le diable qui guide nos actions? Sache que derrière nous, il y a boulevard ainsi que les lunettes. Tous les départements du 01 au 77, notre tendance à l'extrémisme poussait de l'injustice. Strictement hardcore, la jeunesse est désespérée. Elle est hardcore et rien ne pourra l'arrêter. Quoi qu'il arrive, nous saurons aussi nous défendre quand tu ne vas pas à qui c'est attendre. La sédition est la solution. Révolution. Voilà.
C'est une chanson. C'était bien les deux balles de guette, c'est ça?
Et maintenant, chers auditeurs, chers auditrices, au revoir à la semaine prochaine.
Je crois que c'est la fin.
Au revoir à la semaine prochaine.
Salut.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Prendre le mal par le mal n'est pas bon en effet. Mais la rage
et la frustration
empêchent
à la réflexion.
Est-ce Dieu ou le diable qui guide toutes nos actions?
Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les Lilettes. Tous les départements du 01 au 77 accompagnés de 10 à côté de mystères.
réagissent. Notre tendance à l'extrémisme poussée par le lust de la justice.
Strictement hardcore. La jeunesse est désespérée, elle est hardcore. Et rien ne pourra l'arrêter.
Quoi qu'il arrive, nous serons aussi nous défendre.
Car tu ne te doutes que tout vient à boire à qui c'est à tort.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la poche.
Dans la poche.
Je faisons partie d'un parti d'avant-garde.
Vous savez les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.